Isabelle Autissier, présidente du WWF France, nous parle.
Oui, la situation est critique. Les océans sont pollués par le plastique, les espèces disparaissent. Mais il n'y a aucune fatalité. Nous sommes la dernière génération à pouvoir agir. Mais nous sommes aussi la première à vouloir redresser la barre pour léguer à nos enfants un monde meilleur. C'est un message plein d'espoir, non?
Pour inscrire le WWF sur votre testament, renseignez-vous auprès de Camille Perrier au 01 73 60 40 40 ou sur testament.wwf.fr.
Bienvenue d'acheteurs!
CO2, mon ami.
Mais c'est qui tous ces gens?
C'est des mineurs de mine, hein?
Je crois que c'est arrêté les mines.
Ah non, pas toutes, pas celle-là. Je dirais qu'il n'y en a plus grand main, mais bon, de toute façon, même une fois fermée, on continue à vivre dedans. Hein. Vous voulez qu'on aille? Hein?
Non, c'est pas là que tu vis.
Denis Chessou.
J'ai oublié de vous dire, on passe à ta manœuvre, vous pouvez être en retard!
Sur France Inter.
Ah bah oui, bah ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Hein. CO2 mon amour, aujourd'hui reconquête de territoire dans le bassin minier de Lens et donc autour. Bonjour à toutes et à tous dans cette émission qui tente de relier l'homme à la nature avec aujourd'hui Nicolas Slimani à la technique. Nous avons préparé cette émission avec Camille Blanès et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Mais non, pas boulet de charbon. Alors ça commence toujours, si vous voulez, par une petite humeur. C'était l'année du crack la terre, celle qui fait aussi craquer les esprits de l'autoroute de la pensée. Car on attendait l'eau. Crac la terre, la peau parcheminée comme celle d'un éléphant. Depuis des semaines, les arbres mendiaient les nuages, les paumes jointes. L'humanité, comme un berger sans étoiles, ressortait les sourciers et leurs baguettes du fond de leur grange. Le peintre, dans son marais sans eau, entendait la peine des arbres. Oui, la peine des arbres qui fait craquer les branches, plaintes silencieuses des forêts. Alors épicéa brûlé de soleil dans les Vosges, prés et champs jaunis, saoulés de grillons. « Mais allez, creuse, creuse encore !»« Mais je peux plus, dit la rivière Limousine. J'ai plus assez d'eau à donner à vos fleurs, à vos jardins, à mes poissons, à vos maïs subventionnés pour qui vous voulez encore et encore des retenues d'eau qui tuent ma vie et les paysages. J'ai plus d'eau, moi, pour refroidir vos centrales si fragiles quand elle vient à manquer. Ma copine la Charente, bâtonnée, elle était à moins de 8 mètres cubes hier. » Alors été qui ferme son livre assoiffé, l'automne remplira-t-il ses tonneaux? De vin, oui, mais d'eau. On attendait l'eau, craque la terre, nous les enfants gâtés d'un pays tempéré. Ça y est, on est touchés. Alors tandis que les forêts souffrent, eh ben tenez, je vais vous emmener dans le Loiret, car je vous ai déjà parlé de la Balbucam. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une caméra qui permet de suivre en direct la reproduction d'un couple de balbuzards. Alors deux jeunes sont partis en migration et ne savent pas que dans la commune de Mardier, 5 hectares de bois qui accueillent leur aire viennent d'être rasés, mais alors vite fait, chêne plus que centenaire sur les chemins de Maurice Genevoix, transformé en boîte d'allumettes par le conseil départemental. Pour faire quoi? Pour faire passer une nouvelle route, oui, de 7 mètres de large et 150 mètres d'emprise. Les services préfectoraux couvrant l'illégalité de la destruction. Alors vous en faites pas. Le conseil départemental donc du Loiret sûrement organisera avec les enfants des opérations de plantation en faisant de la pédagogie, car il faut aimer et aider la nature. Aujourd'hui, week-end du patrimoine, nos concitoyens, nous tous, nous défilons devant les vieilles pierres, les musées, les châteaux, les lavoirs, tiens, il n'y a pas d'eau, les palais de la République. Nos jeunes, eux, ils défilent à pied. Pas en SUV, hein, comme leurs parents, non. Leur vrai patrimoine à eux, c'est la planète, le sol, les arbres, les rivières, l'air, l'eau, H2O, mon amour, leur bien commun. Seule cause politique digne de ce nom à leurs yeux. Regardez mes parents, regardez, et vous aussi les industries, les politiques, regardez aussi. Et puis toi, la pub, la conso, les GAFA, la finance sans limite. Regardez le climat et le monde sec que tu me laisses. Eh oui, il est sec comme le modèle que tu veux sauver avant tes gosses. Ben voilà ce qu'ils disent les enfants, génération craque la terre. Ils défilent. Et non, ça ne leur passera pas, comme le pensent certains. Mais en fait, qui se défile? Et nous débutons cette émission par le mot de l'environnement. Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour Denis.
Vous êtes toujours professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, vous intéressez toujours à l'environnement, et on va parler du mot contrat naturel. Là, il y a plusieurs mots. Dans le contrat naturel en 1990, Michel Serres n'avait pas, alors vraiment, deux mots assez durs hein, pour décrire la relation des hommes à la nature qui les environne.
Oui, et puis je vais le citer parce que c'est quand même très très beau, son style. « Ne vivant plus qu'à l'intérieur, nos contemporains tassés dans les villes ne se servent ni de pelle ni de rame. »
D'ailleurs, jamais ils en ont vu.
indifférents au climat, sauf pendant leurs vacances, où ils retrouvent de façon pataude le monde. Ils polluent, naïfs, ce qu'ils ne connaissent pas, qui rarement les blesse et jamais ne les concerne.
Ils n'habitent pas l'espace par où ils passent et ils se laissent donc aller à le souiller.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que qui n'écoute pas la nature, qui ne la ressent pas dans son être, en fait, ne sait pas habiter le monde. Ce que nous dit Serre, c'est que c'est une affaire toute métaphysique, hein, pas simplement naturaliste.
Alors qu'est-ce qu'il entend Michel Serre par contrat naturel ?
Serre nous montre en fait que les philosophes ont pensé à un contrat social qui a fini par rattacher l'homme à la seule histoire, et surtout à sa seule raison, comme s'il avait aucun corps, comme s'il était déraciné, déterritorialisé.
Alors le contrat social, déclare-t-il, se fermer sur soi, laissant hors jeu le monde, collection énorme de choses réduites au statut d'objet passif de l'appropriation.
En fait, les hommes ont tous les trois, les sujets vivants, aucun. Et pourtant, sans cette nature, l'homme, il ne peut absolument pas assurer son autonomie.
Et Serre veut établir un nouveau contrat entre l'homme et l'ensemble du vivant.
Oui, alors, non pas un contrat où le premier se conduit comme un parasite. Parasite, c'est le mot de Serre, d'ailleurs, qui donne rien, mais un contrat de réciprocité où la nature peut, sous certaines conditions, devenir aussi un sujet de droit.
Et en 1972, donc, il y a un professeur de droit américain, Christopher Stone, qui se demandait si les arbres avaient le pouvoir de plaider. Donc, autrement dit, s'ils pouvaient devenir des sujets de droit.
Oui, alors, dans les années 70, ça paraissait un peu New Age et puis finalement ça s'est normalisé. La question environnementale s'est même constitutionnalisée. Alors sans aller jusqu'à la constitution de droits propres aux vivants, la société reconnaît de plus en plus l'interaction entre l'homme et son milieu. Et surtout, elle ne conçoit plus le contrat social sans l'apport des services écosystémiques, c'est-à-dire la préservation des services rendus par la nature à l'homme.
En 2006, le concept de solidarité écologique apparaît pour penser l'étroite dépendance entre les écosystèmes écologiques et les hommes.
Alors la solidarité écologique, ça concerne la dimension écologique, bien sûr, mais également les dimensions culturelles, paysagères, socio-économiques, et c'est là pour souligner tout simplement la communauté de destin entre l'homme, la société et son environnement, et surtout désigner tout ce qu'on peut faire de mieux pour gérer le bien commun.
À bientôt Cynthia Fleury pour un autre mot de l'environnement. Vous êtes bien sur France Inter, voici Cassius, groupe français qui me semble-t-il a appris l'anglais. Dans quelques instants, nature, environnement et social mêlé du côté de Lens.
I'm
France Inter, c'était Cassius et Oli, des Français qui n'ont sûrement pas séché leur cours d'anglais au lycée. CO2 mon amour, nature, environnement et social. Allez, nous partons dans le Pas-de-Calais.
Vous êtes ici au cœur de ce qui fut l'archipel noir, c'est-à-dire au cœur de l'archipel des cités minières et donc des mineurs qui ont fait la France industrielle et la puissance industrielle de notre pays. Bien entendu, lorsque le charbon a disparu, l'archipel noir est resté. Les villes minières et leur densité humaine sont restées. Elles sont donc à réinventer. Et Michel Desvignes a proposé un concept qui se marie avec la nature même des villes minières, maisons individuelles, jardins, espaces verts, qu'il a appelé l'archipel vert, et qui peut remplacer, à l'heure de la transition énergétique, qui peut remplacer l'archipel noir et lui apporter l'espoir d'un avenir meilleur.
C'est quoi la résilience, papa ? Ben, c'est quand on a beaucoup souffert et qu'on a réussi avec le temps, la compréhension, à surmonter la douleur, à avancer, à reconstruire, à être. C'est un pays de charbon qui voulait un peu l'oublier. C'est un pays de charbon qui en a aussi la fierté. L'homme que vous avez entendu, c'est Daniel Percheron, ancien président de la région, dans ce bassin qui, plus de 150 ans, a donné la béquée d'énergie noire à la France. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire d'un bassin qui se réinvente. On est donc à Lens, ancien paillasson noir du Pas-de-Calais. Aujourd'hui, le vert, la dignité repousse. Parce que rien n'est fini et que la fatalité n'est pas un destin. Alors une chaîne de terrils qui se donne la main, autour desquels surgissent des projets sociaux, écologiques, humains, avec le travail entre autres du paysagiste Michel Desvignes. Vous saupoudrez de femmes, d'hommes, d'enfants qui doivent faire ensemble, de ballons bien sûr, de maillots sang et or, de cultures qui l'ouvrent ses portes avec humilité. Et comme l'affirme avec justesse l'urbaniste visionnaire Ariella Masbounji, aucun territoire n'est désespéré. Nous étions, pour commencer, au vert, non loin du Louvre-Lens et du stade des Rouges et Or.
C'est pas mal, s'agit du Chêne. On est sous le signe de la jeunesse, là. C'est des classes de CP là, qui sont venues donc à Lens-Louvre. Bonjour à vous, Gilles.
Bonjour.
Alors Gilles Huchette, vous êtes le directeur de cette Euralens. Alors on est là sur ce territoire quand même. Euralens, c'est 650 000 personnes, avec donc, on va dire, différentes sensibilités. Et puis, il faut imaginer donc un grand arc est-ouest qui vient de la Belgique, qui traverse l'Artois, 120 km, avec plusieurs centaines de cités minières, avec plus d'une centaine de communes. Et donc tout ceci a été disséminé en fait au fur et à mesure que l'on trouvait donc des filons d'or noir, donc on trouvait le charbon en fonction des pérégrinations souterraines. Et là vous êtes dit, faut essayer quand même de recoudre un peu ce territoire. Qu'est-ce que vous avez voulu faire et comment on s'y prend ?
L'enjeu c'est de faire travailler les gens ensemble, parce que il y a des sujets ici colossaux à affronter. La reconversion des friches, le développement de l'emploi, l'accès aux équipements culturels. L'enjeu de Oralens, ça a été de créer un lieu où les acteurs peuvent se retrouver, mettre sur la table leurs initiatives et leurs envies de s'investir, et essayer de faire métropole, en fait, mais par le projet, pas par la structure,
ouais,
mais
ça.
Par le projet et puis par les envies de travailler ensemble. Et quand on a fait cette idée du label Oralens, en fait, on a rencontré en fait des tas d'initiatives et de volontés. Les gens, on a plus de 130 candidatures à ce label, qui est en fait un prétexte pour essayer d'identifier qui, sur ce territoire, a envie de le faire bouger.
Donc c'est-à-dire lorsque vous avez un label, c'est-à-dire vous labellisez des projets ou des actions.
Exactement, des projets, des initiatives. Et finalement, derrière, ce sont les acteurs qu'on a envie d'aller chercher. C'est-à-dire ces gens qui se mouillent et qui ont envie de faire bouger leur quartier, leur rue, leur ville. Et ça, c'est le grand défi, parce que c'était un territoire ici où les gens étaient assez isolés les uns des autres. Et donc nous, on essaie de recréer des espaces de discussion et de travail en commun.
Gilles Huchette, ici on ne parle pas directement d'environnement. On sait en plus qu'il a quand même été gentiment massacré, donc là il reprend vie doucement. Comment on s'y prend ? Parce que cet environnement, on le dit très souvent, s'il n'est pas lié au social, c'est pas la peine, quoi.
Là par exemple, on est en train de marcher sur un ancien terri qui est devenu une forêt.
Ouais.
Ces espaces, on en a des milliers d'hectares, puisque évidemment toutes ces friches ont été reconverties, ont été boisées, et du coup ils deviennent un potentiel d'espace naturel formidable. Mais pour que ça devienne des projets, il faut que les habitants aient envie d'y aller, que les habitants y proposent des projets. Et donc c'est un peu l'idée de cette chaîne des parcs qu'on a imaginée, c'était de relier comme ça les anciens terrils, les anciens chemins cavaliers qui transportaient le charbon, en faire des espaces de liaison douce. Mais pour que ça s'apprenne, Il faut que ce soit au service des habitants. On ne fait pas un parc sur un terri pour des touristes. On le fait parce qu'on a envie d'offrir un parc de 100 hectares à des gens qui habitent juste à côté. Et on a une petite phrase que je trouve assez évocatrice. Quand on habite une cité minière ou dans laquelle on n'arrive pas, on a l'impression d'être enfermé, quand on, d'un seul coup, on révèle qu'on habite une maison individuelle avec jardin, avec à côté un parc de 100 hectares, en fait, on n'habite plus tout à fait au même endroit.
Aujourd'hui, Gilles Huchette, il y a 54 projets qui sont labellisés Euralance. Alors, on va cliquer simplement peut-être sur ceux un peu plus environnementaux, donc reliés, une fois de plus, hein, avec, avec la société, avec les gens. Si on parle du bio, si on parle de l'alimentation.
On a, par exemple, dans les projets, un groupement d'agriculteurs qui mutualisent du matériel. Parce qu'ils travaillent ensemble, ils arrivent à investir dans du matériel plus performant et surtout à partager des expériences. En 2009, il y avait un agriculteur qui faisait 6 hectares de bio. Il a réussi à entraîner avec lui d'autres. Aujourd'hui, ils sont 7 ou 8, ils en sont à 250 hectares de terres converties en bio. Mais après, on peut aussi parler du coup de mobilité. Un territoire comme ça, en archipel, où les gens sont condamnés à utiliser leur voiture quand s'ils en ont une, comment on arrive à proposer des solutions de mobilité différentes? L'idée de la chaîne des parcs, c'est aussi ça, c'est proposer un maillage de cyclables de 400 km qui relie les sites entre eux, qui permet d'aller au collège, d'aller faire ses courses, d'aller au centre-ville. Pourquoi pas à des touristes de venir jusqu'au Louvre à vélo, mais aussi pour répondre à des enjeux quotidiens. Puis après, vous avez parlé des cités minières. Cités minières, c'est...
Donc c'est l'énergie de base qui a permis à la France de se développer. Mais maintenant, on passe à d'autres formes d'énergie.
Bah, évidemment, parce que le charbon n'est plus là. Les maisons avaient été construites à une époque où l'énergie ne coûtait rien pour le territoire. Là, les gens y habitent. Alors comment on fait pour passer de factures énergétiques de 1000 à 2000 euros par an pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, à des factures beaucoup plus accessibles. Donc il y a un enjeu de rénovation de ce patrimoine qui est extrêmement important pour, permettre aux gens de consommer moins, de gagner en pouvoir d'achat, et puis surtout d'économiser l'énergie dans un contexte qu'on connaît.
Parce qu'il y a quand même 70 000, je crois, maisons individuelles, donc minières, et vous en avez facilement plus de la moitié qu'il faut rénover.
En 10 ans, il y a un grand chantier qui est lancé pour en rénover 23 000 de façon accélérée, parce que si on avait attendu au fil de l'eau, ça aurait pris des dizaines d'années. Ouais. Donc comment en 10 ans, on arrive à accélérer cette rénovation et de passer toutes ces maisons qui sont catégorie FG à, au minimum, BBC Rénovation pour le confort des habitants, puis pour économiser l'énergie.
Gilles Huchette, donc directeur d'Euralance. Alors on n'est jamais loin de l'ombre d'un terril. Un terril, vous l'avez compris, qui verdissent avec le temps. Des arbres ont poussé sur la sueur des hommes, les misères, les joies. Et puis tenez, un ingrédient indispensable comme l'eau, l'air, les arbres, des graines de culture, en compagnie d'une femme qui a un très joli nom. On embrasse le Louvre-Lens, qui est donc ouvert depuis 2012. Et je vais rejoindre Marie Lavandier. Elle est là dans, j'allais dire, le parc ou le jardin. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors nous sommes chez vous. Et alors tout de suite, effectivement, quand même, un musée qui est posé sur un ancien carreau des mines, parce que ça a quand même été ça, quoi. Il y a du charbon là-dessous.
Exactement. L'originalité du projet ici, c'est qu'effectivement, c'est un musée qui est en plein milieu d'un parc, d'un espace vert extraordinaire et d'un espace vert qui s'intègre, s'implante année après année sur ce qui était un ancien carreau de mine. Un ancien carreau de mine, tout simplement, c'est quoi? C'est un site industriel. Ici, oui, c'était une usine. Et puis ici, on le sent moins, mais en fait, c'était un terril. Là, c'était les remblais de la mine, les déchets de la mine, un terril tabulaire, un terril plat. Et petit à petit, les mines avaient planté pour consolider ce terre-plein, en quelque sorte, des espèces qui sont les robiniers, donc des acacias, comme on dit, des acacias, oui, les bouleaux verruqueux, vous voyez ces beaux bouleaux blancs, et ça, c'est devenu petit à petit avec les années une friche merveilleuse et une espèce de bois magique, là, le bois pionnier du côté de Liévin, qui borde donc ce parc de 20 hectares.
Alors Marie Lavandier, on se retourne, on a derrière nous le Stade Bollaert, donc avec les rouges et or, et là c'est évidemment extrêmement important, c'est ce qui a créé aussi l'identité de Lens. Il y a ce passé charbonnier que l'on réapprivoise, et puis donc il y a ce Louvre-Lens. Et votre rôle, évidemment, c'est un rôle culturel, mais tout ceci est mêlé, c'est-à-dire que vous avez une mission qui est enfin aussi importante que la culture.
Ouais, tout à fait. Alors ici, l'enjeu pour la région, pour les collectivités locales qui ont porté le projet, c'était vraiment la transformation du territoire. C'est un territoire où, en gros, sur tout le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, les mines de charbon faisaient vivre à peu près 1 million de personnes. Quand elles ont fermé, donc très progressivement à partir des années 70, puis très, très rapidement dans les années 80, il a fallu se réinventer ici. Ça a été extrêmement difficile. Ce qui a été magnifique et qui, moi, m'habite tous les jours, c'est que sur ce dossier-là, des gens, C'est 8000 personnes qui, à certains égards, manquaient de tout. On écrit des messages d'espoir de musée, d'envie de culture, pour dire bah oui, c'est la misère, on n'a pas de boulot, les fins de mois sont difficiles, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de tout ce qu'on veut. Et alors, c'est pas pour ça que la culture, elle doit pas venir et qu'elle doit pas venir en premier. Et c'est pas pour ça qu'elle va pas nous aider à vivre.
Alors ce qui est formidable, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui 500 000 personnes qui viennent quand même par an. Et c'est pas seulement, on va dire, des habitués, des gens qui déjà ont l'œil aguerri.
Pour moi, ça c'est essentiel. C'était d'arriver à établir une relation avec les habitants. C'était de pas faire, voilà, Paris vous envoie la culture, etc. C'est surtout pas ça l'idée ici. Et ça va très loin, ça veut dire que même le projet scientifique et culturel, comme on l'appelle, du musée, pour les 10 années qui viennent, on vient de l'écrire. Dans les statuts, c'est la directrice ou le directeur qui écrit ce projet. Moi, j'ai dit, moi, ici, je peux pas faire comme ça. Ici, on travaille avec les associations, on travaille avec les gens, on invente des choses au quotidien différemment. Le projet, on va l'écrire avec les habitants, avec les visiteurs, avec nos partenaires, avec les associations du champ social, avec aussi la totalité des gens qui travaillent ici sur le site du musée. Mes équipes, bien sûr, mais aussi des équipes de prestataires qui travaillent dans le musée, à l'accueil, la sécurité, etc.
Donc on n'est vraiment pas sur une culture.
On l'a écrit à 1200.
Qui descend sur les gens. 1200 personnes.
Ouais. 1200 personnes qui ont écrit ce projet. Et pourtant, ce qui est beau, c'est que chaque fois que j'en parle à quelqu'un qui a participé, il me dit, ce projet, il me ressemble. Ça, je trouve ça absolument génial.
Marie Lavandier, comment fait-on aussi passer quelques notions, on va dire, environnementales, d'écologie, qui doivent être inévitablement et heureusement reliées au social, dans un territoire qui a quand même payer un tribut absolument fou en chair humaine, en santé, en pollution diverses et variées.
Alors déjà, nous, on a la chance de pouvoir faire ça naturellement, puisque pour moi, il n'y a pas le musée et sans parc. Ce musée, c'est un musée-parc, c'est une espèce de cité culturelle totale. Donc déjà, on avait un exercice pratique qui était simple. Il y avait le terril. Le terril, c'est un site industriel, c'est un site qui a été pollué. C'est un site sur lequel il a été choisi par la paysagiste Catherine Mosbach de ne pas remettre de terre végétale, mais de laisser faire. Ça, j'adore ce mot, à laisser faire. C'est un grand apprentissage ici. Et ça, c'est vraiment ce que la nature
nous
enseigne.
C'est un peu le lâcher-prise de la nature.
C'est lâcher prise de la nature et ça impliquait un traitement paysager que vous voyez ici tout autour de nous, là, très particulier. C'est-à-dire qu'on avait ce bois qu'on a réussi à sauver, parce que quand vous avez un chantier comme celui du Louvre-Lens, inutile de vous dire que tout ça a un petit peu abîmé, un petit peu saccagé, disons, à certains égards. Mais ce sous-bois, on travaille à le reconstituer depuis 6 ans. Et vous avez raison, reconstituer un sous-bois, c'est s'effacer, c'est laisser faire. C'est parfois juste, si on voit arriver bon, les espaces invasifs, par exemple, la renouée du Japon, bon, ça commence ici.
Aller partout. Ça. Hein.
Et là, vous le voyez, petit à petit, au bout de 6 ans, on a un sous-bois qui ressemble à quelque chose. Et l'idée, c'est aussi, petit à petit, d'apprendre. Alors, on n'a pas voulu de jardin partagé, parce qu'ici, je vous dis, tout le monde a un jardin. Mais, par exemple, il y a des parcelles sur le parc qui sont plantées exprès pour que les gens retrouvent le goût de cultiver leur jardin. Il y a des composts dans lesquels, petit à petit, les habitants des cités environnantes viennent apporter leurs propres déchets à composter. Il y a des potagers, vous les avez vus, et pour le personnel, pour les écoles, tous les 2 mètres, pour inciter un petit peu à tout ça. Est-ce que je peux vous montrer autre chose dans le parc?
Ah, mais bien sûr. Alors, là, on s'est mis à quatre pattes avec Marie Lavandier pour récupérer des petites fraises.
Exactement. Oui. Mais alors, c'est un parc qui est très gourmand ici. Il y a des fraises, des bois, évidemment. Il y a des champignons ici. Alors, évidemment, les champignons sur un ancien terril, je ne sais pas si c'est très conseillé, mais dans des proportions raisonnables, je pense que oui. Et figurez-vous que j'ai rencontré des gens qui venaient de Liévin, donc... l'autre ville sur le territoire de laquelle s'installe le Louvre-Lens.
Continuez ce que je mange, allez-y.
C'est un monsieur qui venait avec sa petite fille, qui était en études de médecine d'ailleurs, et ramassait des armillères couleur de miel. Vous voyez ce que c'est hein. Donc ça, c'est pro, ça. C'est-à-dire que c'est des champignons qui poussent sur des souches en grappes. Ben, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ramasse et qui mange ça. Ben, ici, il y a des gens qui ont repéré un petit peu tout ce qui est en train de se passer dans ce parc à la faveur de cette installation d'une nature nouvelle.
Ah oui, donc c'est une femme vraiment qui donne envie. Hein. Donc ce musée, il faut bien le dire, il est très bien intégré avec une architecture qui ne la ramène pas. Ah bah tenez, lui aussi est intégré, mais c'est à la playlist.
Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre qu'a
cache trois drôles de garçons. Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite. Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde que mes poches pourraient régler. Et sa gauche s'était lancée. Sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loup-bar? J'en sais rien, c'est le jeu. Je vais pas raser les murs. Ils m'ont pris mes baskets, ma veste, mes cigarettes. Pendant que je restais sur place, sans un mot, sans un geste, et l'air désabusé. Jamais je n'avais fait tourner autant une scène en mon esprit. En la rejouant me venaient quelques réponses bien senties que j'aurais pu lancer sans peur aux trois voleurs, quitte à se faire amocher. Autant dire ce que ça fait. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas racket un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Sors bien les violons, ils vont me rendre mon blouson. Peut-être même mon téléphone, je récupère mes affaires et je leur file ma monnaie.
Il s'appelle Voyou, j'espère que c'est pas exactement son vrai nom. Et donc il a interprété les trois loupards. Alors son œuvre sera-t-elle exposée au Louvre-Lens? Allez savoir.
CO2, mon amour.
Il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland.
Denis Chessoux.
Il plantait des chaînes.
Sur France Inter.
L'homme qui plantait les arbres, mais peut-être pas sur la montagne de Lure, là, sur une colline, une montagne. Eh ben non, un terril, Los Sangüel, car l'idée de reconquête, de remise en mouvement du territoire, elle est partie de là, de Los Sangüel. J'ai quitté Lens, 3 km. Bon, c'est pas loin. C'est pas loin parce qu'on avait envie d'aller retâter du 11-19 qui sont ces deux terrils, 180 mètres pour rejoindre Jean-François Caron qui est l'homme des lieux et qui est aujourd'hui le président national des sites classés au patrimoine mondial comme ces terrils. Bonjour Jean-François.
Bonjour Denis.
Jean-François, chez vous, on est là sur votre montagne, j'allais dire tutélaire parce que c'est votre montagne d'enfance. Hein,
Oui, alors ce sont des montagnes qui ont été élevées en un peu plus d'un siècle. Mais comme Los Sangüel concentrait la remontée du charbon à 15 km à la ronde, ça a poussé comme des champignons. Donc on a aujourd'hui les plus hauts terrils d'Europe qui sont à Los.
Je souhaitais vous avoir parce que vous êtes un des fondateurs de cette notion de bassin minier, aussi de Euralens dont on parle donc aujourd'hui. Donc c'est vraiment ici la matrice, hein, donc à Los Sangüel. Parce qu'en fait ce que vous êtes dit, c'est, vous avez une très jolie phrase, on ne construit pas sur du reniement. Et donc il s'agit en fait de changer le regard. Alors changer le regard des habitants de Los Sangüel et puis maintenant d'essayer de changer le regard des gens qui habitent dans ce secteur de Euralens.
La difficulté devant laquelle on est, c'est qu'on a été complètement formaté par le charbon. Il y a 29 nationalités qui sont venues pour faire du charbon. On était encadrés dans des cités minières. Les houillères possédaient tout, les églises, les clubs de foot. Il n'y a que les cimetières qui appartenaient pas aux houillères. On a un héritage à gérer d'encadrement de la société et se projeter dans un nouveau monde. C'est d'ailleurs ce que vit la France et le monde d'ailleurs au niveau global puisqu'on est à la fin d'un modèle de développement. Nous, on l'a vécu, on a 30 ans d'avance quelque part. On a tapé dans le mur il y a 30 ans avec l'arrêt du charbon.
Aujourd'hui, on est face à une page blanche.
Et donc voilà, toutes les questions qu'on a, c'est changer son imaginaire, changer les représentations de c'est quoi le modèle économique. Et donc c'est puissamment culturel. Et comme c'est culturel, c'est pas en disant aux gens, mais si moi je me mets à dire aux mineurs qui sont plus tous de ma famille, mais vous êtes des gros nuls, quoi, vous nous avez fait le réchauffement climatique, excusez-vous d'exister, ils vont, dans le pire des cas, ils vont me mettre un point sur la figure, ou peut-être ils vont partir en dépression, mais ça va pas générer de conduite de changement. Et au contraire, je pense que c'est en faisant apparaître une vision extrêmement positive du 21e siècle, c'est ce qu'on fait ici, avec l'éducation à la culture, à l'environnement, une mise en scène et en valeur du patrimoine, parce que c'est nos racines et que ça nous fonde, ça nous permet de relever la tête, le fait par exemple qu'on soit inscrit au patrimoine mondial, de retrouver confiance et donc de pouvoir commencer à s'affronter à cette page blanche.
Alors on change, on le sait, par la peur, ce qui est jamais une très bonne chose, ou bien on change par le désir. C'est ce que vous avez voulu faire.
Exactement. Je pense que si on additionne la somme des raisons rationnelles, morales, qu'il faut qu'on change, d'ailleurs ça a déjà été fait, il y en a des bouquins, il y en a des émissions complètes, et pourtant ça déclenche pas stratégie de conduite de changement. Et donc du coup, ma théorie, mais elle fonctionne plutôt pas mal hein, sur l'os, c'est de dire on a besoin d'une étoile qui brille dans le ciel, et qui nous donne envie, et l'envie... c'est comme l'amour, quoi. Quand vous êtes amoureux, vous faites le tour de la Terre, normalement. Oui. Bon, on doit mettre en désir, et là, pour le coup, pour Los Angeles, par exemple, c'est la ville durable. La ville qui se relève de ses cendres et qui donne à voir à nouveau vivre ensemble, des nouvelles actions économiques, une agriculture qui se transforme, les toits de la ville qui sont en train de basculer massivement au solaire. Vous vous rendez compte qu'on va peut-être être la première ville solaire, enfin, c'est pas peut-être, j'en prends l'engagement là, enfin, on va l'être, à côté de la Belgique, c'est-à-dire à côté de la banquise. On va devenir la première ville solaire parce qu'on est en train de couvrir massivement. Ça, c'est une étoile qui brille. Alors par contre, comme on ne règle pas tout en une seconde, on a besoin de petits cailloux blancs qui rythment le chemin vers l'étoile. Alors quand on a fait la première église solaire de France, c'était un petit caillou blanc. Et la transformation de ce site minier et la mutation vers Euralance, c'est comment, à l'échelle d'une commune, on a pu faire apparaître des nouvelles représentations. Comment, à l'échelle du bassin minier, on élargit ce questionnement?
Ça veut donc dire que là, sur ce 11-19, sur ce terril, on est sur un petit caillou blanc, en quelque sorte.
On devrait plutôt dire un gros caillou noir, parce que le Terry, c'est quand même une montagne faite à main d'homme, c'est gigantesque. Mais effectivement, sur ce lieu où les mineurs descendaient, 2000 mineurs descendaient par jour, on a le seul pôle de compétitivité de France sur l'économie circulaire. On a une centrale solaire extrêmement moderne. On a un centre d'éducation au patrimoine et à l'environnement. Bref, ce lieu qui était celui du 19e siècle est maintenant celui du 21e.
On était sur un lieu qui était un lieu de souffrance, qui était donc un lieu de soumission. Et après, il est devenu donc un lieu d'épanouissement aujourd'hui.
Complètement.
Parce que là on a tous ces coins qui sont verts, on a de plus en plus d'arbres qui sont en train de pousser, on a des gens qui font du VTT, il y en a d'autres qui marchent là au loin. Il y en a sûrement qui comptent les oiseaux aussi dans un coin.
Oui, et bien sûr, le lieu donc il est beau, le lieu il est aujourd'hui un lieu de nature, parce que les terrils sur le plan biologique, c'est des écosystèmes absolument incroyables. Il y a des espèces très rare. Un autre exemple, on a fait arriver ici le marathon et les randonnées de la route du Louvre, 15 000 personnes en basket, 50 000 visiteurs qui pique-niquent au milieu des puits de mine, évidemment complètement transformés. Donc c'est un lieu festif, on y a fait beaucoup de sons et lumières, par exemple des concerts. Et alors, il y a Pierre Radagne qui a une formule que j'adore et qui dit il va quand même falloir commencer à aimer le 21e siècle. Et moi, je me dis, dans le bassin minier, où on est l'archétype de ce vieux monde, on a une responsabilité à faire émerger ça. Parce que c'est tellement une caricature ici que, d'ailleurs, c'en est presque facile. Moi, j'ai le coutume d'aller rencontrer beaucoup de collègues élus sur les questions de transition. Et au bout d'un moment, ils me disent, oui, mais Jean-François, c'est trop facile pour toi. Vous êtes tellement dans la merde que vous pouvez, de toute façon, vous êtes obligé de changer profond. Et moi, je suis profondément optimiste, je pense qu'on va y arriver. Mais il y a du vent contraire, des fois.
Merci Jean-François.
Merci Denis.
Jean-François Caron, donc sacré personnage également. Alors on parle de faire bouger un territoire de 650 000 habitants, de villes, de quartiers. On va rester à cette dimension dans un quartier de Los Angeles. Alors comment redonner confiance à peu près 15 000 euros de revenus par an et par habitant, pas plus. Eh bien, on part des envies des gens. Ah oui, mais tu vas. Non, mais je cherche la maison de l'ingénieur. Il ne me répond pas. La maison de l'ingénieur, tu connais ou pas? Non, il ne connaît pas. Donc je suis à Nancy. Et je cherche donc, sans l'aide de ce chien. Très mauvais GPS, le chien. La maison de l'ingénieur. Ça va, j'ai Marie Forquet qui nous attend. Bonjour Marie.
Bonjour Denis.
Voilà, j'y suis arrivé, sans le chien.
Bon.
Alors nous sommes d'ailleurs pas loin de l'église de Lens, donc église en briques, évidemment, on fait avec les matériaux d'ici, l'église Saint-Édouard. Et là nous sommes face donc à cette maison de l'ingénieur. Et là racontez-nous, parce qu'en fait nous sommes, on va dire, ce qu'on appelle un tiers-lieu. Et ce tiers-lieu porte un joli nom, c'est Porte-Mine.
Oui.
Et donc vous avez créé ce Porte-Mine et la maison de l'ingénieur, donc qui étaient ces ingénieurs?
Alors la maison de l'ingénieur, historiquement, c'était la maison de l'ingénieur des mines, donc oui, celui qui contrôlait l'ensemble de la fosse 12, puisque ici dans le Pas-de-Calais, on a des numéros.
On est dans la cité du 12-14.
C'est ça, alors le 12-14, mais ici particulièrement, c'est le 12. Alors les plus anciens connaissent la frontière entre le 12 et le 14. 1914, puisqu'il y avait deux puits à l'origine. Mais aujourd'hui, les puits étant fermés, on a rassemblé cette cité entre le 12 et le 14. Mais il y avait bien deux puits distincts. Et donc nous, ici, on est dans la maison de l'ingénieur du puits numéro 12 de la cité lensoise.
Et donc cet ingénieur, évidemment, surveillait son personnel, on s'en doute bien, donc ces différents mineurs. Vous avez, vous, donc investi cette maison. Et ce qui nous intéresse bien dans le cadre, on va dire, de cette requalification, c'est le travail que vous faites. Parce que vous faites vraiment, alors là, avec la population.
Alors c'est vrai que c'était assez emblématique de reprendre une maison d'ingénieur, puisque le projet de Porte-Mine, c'était de rendre l'ingéniosité aux habitants ici du territoire, et effectivement de créer tout un projet avec une inclusion des habitants pour créer des projets socioculturels. Donc dans cette maison d'ingénieur, donc on voit aussi par sa domination, hein, c'est 3000 m² de grands jardins.
Oui, il y a de l'espace hein,
voilà.
Par rapport au jardin des maisons de mineurs. Oui, c'est...
Donc dans cette maison, l'idée c'était aussi de pouvoir répondre à des enjeux de bien-vivre alimentaire, mais aussi développement touristique. Donc on va ouvrir un petit restaurant bio et local, un café citoyen, et à l'étage de la maison, les chambres d'hôtes.
Quand on parle de rénovation, on se dit bah, c'est formidable parce que les gens ont tout à y gagner, ce sera plus beau, on va gagner bien sûr en énergie, etc. Adieu les passoires thermiques, mais les réhabilitations, il faut quand même y aller avec doigté ici.
C'est parfois difficile la réhabilitation. Alors moi j'ai mis du temps à comprendre pourquoi ces gens étaient tellement accrochés à leur maison. Il y a même des gens, on peut voir, il y a des rues qui sont complètement murées et il y a encore des habitants un peu résistants qui restent là. Et moi ça m'a profondément touchée parce que les logements sont quand même profondément insalubres, parce qu'ils sont très anciens, mais ces gens ne veulent pas partir. Et j'ai compris que, ici, en fait, la richesse, elle est basée sur la mémoire, sur ce qu'ont vécu les gens. Et avec tout ce principe aussi des ayants droit, c'est-à-dire que auparavant, quand il y avait une famille qui était mineure, les enfants pouvaient récupérer la maison quand les parents décédaient, etc. Et du coup, pour eux, c'est cette maison qui est l'héritage. Même si elle ne leur appartient pas, c'est cette maison qui est l'héritage de cette mémoire, des valeurs qui se sont transmises, des souffrances aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que même dans les plans de rénovation urbaine, il faut penser à ça. Et donc, voilà, bougeons avec notre cœur et faisons quand même pour que les gens ne se sentent pas délaissés parce qu'ils ont perdu des murs et qu'ils se sentent démunis d'une mémoire.
Marie Forquet, alors comment penser son passé avec un A et comment penser avec un E son avenir? Voilà, c'était de l'archipel noir à l'archipel vert, aujourd'hui CO2 mon amour sur le territoire de Rallance. Merci à Charles Pellabon pour son mixage et puis aussi à Ariella Masbounji, donc urbaniste, pour tous ses conseils.
Vous avez l'air en pleine forme là, gay, entreprenant, dynamique.
CO2 mon amour, Denis Chessoux.
C'est du brutal.
Sur France Inter.
Le dernier mot, la citation environnementale. Alors là, on est ton sur ton, avec un homme du Nord, notre ami comédien, Jacques Bonnafé.
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité que dans la crise. Jean Monnet.
Merci à Nicolas Slimani, à Camille Blanès, à Jérôme Boulet qui a réalisé l'émission et donc ce reportage, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, le Twitter, chez Sou, tout simplement, chez Sou. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous fêterons quoi? Eh ben, le départ des hirondelles. Ouais, je vous souhaite un excellent week-end.